par rapport à ce que tu viens de dire. Donc on comprend bien que la crise sanitaire, elle est d'ampleur, mais qu'il y a une crise sociale qui couvre malgré le confinement et qui couvre depuis, on va dire, 2009. Il y a eu plusieurs épisodes de confrontation, d'émeutes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette crise sociale et puis de la manière dont l'État gère la crise, même si tu as commencé à l'évoquer, avec le fait d'utiliser les expulsions comme remède au mécontentement?
Alors effectivement, depuis 2009 principalement, il y a les crises sociales, elles sont très très régulières. Souvent, elles sont déclenchées par des épisodes de violence, mais en fait, elles sont assez latentes. Mais il y a des épisodes de violence, et notamment des épisodes de violence autour des établissements scolaires, qui sont déclencheurs, qui déclenchent des mouvements de grève, des droits de retrait, et donc des cortèges qui se forment avec un ensemble de revendications. Donc en général, c'est plus de sécurité autour des établissements. Sans très bien, on a du mal, enfin, il faudrait voir sur place comment ça se passe en fait, qu'est-ce qui anime ces conflits au sein des établissements. Comprendre qu'à Mayotte, il y a quand même une part des jeunes qui n'a pas accès à la scolarité, qui n'y a pas accès, qui est évacué très tôt de la scolarité, qui en sort en tout cas. Donc ça peut être un élément de compréhension des tensions autour des établissements scolaires, mais ça résume pas tout. Et donc globalement, enfin là en tout cas en 2018 et puis cette année encore, c'était ça. Ça a commencé aux abords des établissements scolaires. Il y a eu des cortèges de mobilisation, des droits de retrait qui ont été mis en place par les personnels de l'éducation notamment. Donc rapidement, bah à chaque fois c'est la question d'immigration, de la délinquance, donc des jeunes comoriens. Rien ne démontre que ce sont que des Comoriens. Et puis en fait, il semblerait qu'il y ait beaucoup de... Certainement aussi une partie importante de jeunes Mahorais. Et parce que cette violence aussi, c'est une réponse à une violence sociale très fortement ancrée à Mayotte, qui touche particulièrement les jeunes. Les jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Enfin, il faut avoir en tête que ceux qui peuvent partir partent. On a presque la moitié des 18-25 ans qui sont nés à Mayotte, qui quittent l'île pour poursuivre leurs études, trouver un emploi. Et donc, ces jeunes, ils vivent les inégalités que connaissent le territoire de plein fouet, vraiment. Il y a régulièrement ces mobilisations concentrent sur la question de l'immigration. Ce que fait l'État, c'est mettre en place des mesures de lutte contre l'immigration, ce qui semble relativement vain, hein, parce qu'entre Mayotte et puis l'île la plus proche des Comores, il y a 70 km. Là, il semblerait, le sous-préfet avait l'air de dire que l'arrivée des Kwasa Kwasa, qui sont des bateaux de pêche initialement, mais qui sont utilisés pour les traverser, elles ont repris, les radars ont détecté des activités. Donc quand la mer est relativement calme, il y a plus d'activités et il y a des bateaux qui sont arrivés pendant le confinement. Et donc ça, c'est un peu brandi, l'État va prendre en charge cette question et donc va répondre favorablement. Alors du coup, cette cristallisation autour de l'immigration, ça occulte complètement tous les droits qui sont minorés pour Mayotte, le problème de l'emploi, le problème de la scolarité, le problème de la santé.
Donc finalement, l'État se protège en n'essayant pas d'investir dans des lieux d'éducation, de formation, de santé, mais plutôt brandit l'étendard de la migration et ce qui fait son propre jeu et le jeu d'une partie de la population mahoraise.
Il y a malgré tout des investissements, hein, notamment dans l'éducation. Là, il y a des établissements qui sont en train d'être construits, mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas du tout. Et il y a un réel problème démographique à Mayotte. C'est très petit la densité de population. Enfin, c'est invivable, mais pour tout le monde, hein, et surtout pour les personnes les plus précaires en fait. Mais en fait, c'est pas possible autrement. Et en fait, avec la fermeture des frontières, ce que fait la France, c'est qu'elle fait que les gens en fait ne circulent plus. Ils viennent à Mayotte et ils y restent. Alors, il y en a quelques-uns qui repartent aux Comores, mais en fait, avec le durcissement des conditions d'entrée, quand on arrive à y entrer, on repart pas pour prendre le risque de se faire refouler une deuxième fois. En fait, on se retrouve avec une population qui est aussi bloquée sur l'île, hein, qui subit cette impossibilité de faire des allées et venues entre les Comores et Mayotte. Il y a des investissements quand même, mais ça suffit pas. On est toujours dans le primaire, un système de rotation à la demi-journée. Pour voir, moi j'avais discuté avec un enseignant qui m'avait à peu près expliqué l'organisation des emplois du temps au collège aussi. On est partout, on est en sureffectif. Les effectifs sont le double de ce que devraient accueillir les établissements. Et donc dans les collèges, 6e, 5e sont prévus sur le début de la semaine, 3e, 4e sur la fin de semaine. Et on essaie de... Parce que sinon, on a trop d'élèves en même temps dans l'établissement. C'est pas possible, d'un point de vue sécurité. Donc le but, c'est de gérer des gros effectifs comme ça. Mais malgré tout, il y a quand même... Enfin là, avec avec la crise de 2018, il y a quand même un investissement qui est fait dans l'éducation, mais qui n'est pas suffisant. Et puis il faut aussi un personnel enseignant qui vient principalement de métropole. Il n'y a pas de formation sur place. Là. Depuis peu, il y a une formation à l'enseignement primaire, et donc il y a le rectorat recrute de manière préférentielle à Mayotte et évite de faire venir des métropolitains. Il y a beaucoup de retard, et ce qui est sûr, c'est que par contre, la réponse en termes de lutte contre l'immigration, elle n'est pas lâchée. C'est une manière de renvoyer un peu, moi j'ai l'impression, les Comoriens et Mahorais face à face. Ce qui ne veut pas dire que les populations sont complètement instrumentalisées. Cette manière de pointer du doigt l'immigration comorienne, elle est aussi mobilisée dans des formes d'intérêt plus personnel par la population comorienne. Enfin, un collègue doctorant qui est en thèse à Bordeaux et qui travaille sur Mayotte aussi, explique bien que les pratiques de décasage qu'on peut connaître à Mayotte, hein, qui ont connu un pic vraiment en 2016, mais ont commencé un petit peu avant.
Est-ce que tu peux préciser ce que c'est le décasage ?
Le décasage, en fait, c'est des collectifs mahorais qui se sont dit que la police ne faisait pas son travail, et donc qui ont commencé à dire assez publiquement et à l'affirmer qu'eux, ils allaient virer les Comoriens de chez eux. Donc le décasage, c'est sortir quelqu'un de chez lui s'il y est, s'il s'est pas déjà enfui, prendre ses affaires et les brûler. Voilà. Donc on décase les gens, on les vire complètement, et en fait, voilà, ce que le collègue doctorant, c'est Damien Richaud à Bordeaux, montre, lui explique bien, c'est que en fait, c'est aussi tout à fait utilisé à des fins personnelles, ce genre de pratique. Quand on loue une maison, aussi modeste soit-elle, ça peut être une case en tôle, mais ça se loue cher, hein, plusieurs centaines d'euros selon les endroits. Quand on loue une case en tôle à des Comoriens, puis qu'à un moment on a envie de les dégager parce qu'on a autre chose à faire de ce terrain, ben on va faire appel à des réseaux qui vont s'organiser, donc qui vont procéder au décasage. On n'est pas du tout dans une pratique très idéologique, contre. Voilà, c'est pour dire que c'est pas qu'une. La population mahoraise n'est pas que instrumentalisée, et que c'est plus compliqué que ça, en fait. Il faut comprendre un petit peu, enfin, saisir un peu les conflits, comment ils s'animent sur place.
Donc tu viens de nous parler donc du contexte de tension, de crise sociale qui est d'ampleur. Eh bien, dans ce contexte-là, comment se sont passés le confinement et le déconfinement ?
Alors le confinement, en fait, il a été annoncé, comme je le disais, en même temps qu'en métropole, le 17 mars. Et en fait, le confinement, pour une part très très importante de la population, quand on regarde les conditions de vie précaires, d'habitat précaire, c'est très compliqué, voire impossible. On est dans des habitats vraiment en surpopulation, hein. Il y a des familles qui vivent dans une seule pièce, famille de 6 personnes, un accès à l'eau courante qui est impossible pour une partie de la population aussi. Donc le confinement, il est très compliqué. Rester chez soi, c'est pas possible quand il fait 40 degrés à la maison. Là, il fait très chaud à Mayotte. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le confinement, en contraignant fortement la circulation dans l'espace public, elle a empêché un certain nombre de personnes à avoir accès aux ressources habituelles. Ce que je disais au début, hein, le travail informel, ça représente une part importante des ressources pour une grande partie de la population. Alors soit une population qui n'a pas du tout accès à l'emploi, mais pour une population aussi qui a en partie accès à l'emploi et qui a des activités informelles par ailleurs. Ce qui s'est passé, alors la police contrôlait, hein, il y avait un système d'attestation aussi, alors qui est très compliqué quand on ne sait pas lire et écrire. C'est le cas de beaucoup de personnes à Mayotte, quand il faut imprimer des papiers ou avoir du matériel numérique pour présenter. Enfin voilà, donc qu'est-ce que ça voulait dire vraiment ce confinement à Mayotte ? C'était vraiment dans le but de, je pense qu'il y a un effet de dire on a le même traitement à Mayotte qu'en métropole. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément bénéfique. Voilà. Parce que malgré tout, il y a de la circulation. Il faut savoir que pendant le confinement, en fait, c'est la période du ramadan. Alors le ramadan, c'est une période où on mange pas la journée, mais le soir, on sort habituellement, et les jeunes sortent beaucoup pendant le ramadan. Les associations, les mairies mettent en place des tournois sportifs le soir. Il y a le mourengue aussi, qui est une pratique sportive qui est spécifique à la période du ramadan. Donc c'est une sorte de combat. De combats que les hommes ou les filles aussi font, et donc ça rassemble énormément de personnes. Alors moi, ce que j'avais compris, hein, des nouvelles que j'avais de Mayotte, c'est que les mourengues étaient sur le papier certainement pas autorisés, puisqu'on n'était pas autorisé à se rassembler, mais que la police n'interdisait pas quand elle les voyait. Et début mai, en fait, le premier week-end de mai, il y a eu une interdiction des mourengues parce que la police craignait des affrontements. c'est des choses qui arrivent aussi à l'issue des mourengues, en fait, il y a des jeunes qui se retrouvent et puis qui se battent. Donc là, il y a eu une interdiction, ça a un peu mis le feu aux poudres, et donc il y a eu des conflits très violents avec la police hein, dans plusieurs quartiers, mais notamment à Tsunzhou. Il y a une épicerie aussi qui a été pillée, parce que le problème de la faim, il est vraiment à ce moment-là, enfin début mai, et très très vite en fait, hein, quand on a des revenus, le travail informel, c'est pas des revenus mensuels, c'est des revenus à la journée ou à la semaine. Donc rapidement, on n'a plus aucun revenu. On n'est pas payé quand on ne peut pas travailler, que ce soit pour le commerce de légumes, pour le travail dans le bâtiment, même s'il y a des gens qui ont réussi à travailler. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui malgré tout, ont travaillé en prenant des risques parce qu'il fallait se déplacer. Et donc, on n'a plus de ressources. Donc, la question de la faim à Mayotte, elle est existante et elle se pose très, très vite pendant le confinement. Voilà. Donc, il y a eu un certain nombre de pillages, de vols. Il y a eu ces affrontements avec la police. Alors, la manière dont c'est relaté dans la presse, on a un peu de mal à comprendre comment ça se passe. Je pense qu'à un moment, la police a interdit des pratiques qui étaient des sas de décompression pour une partie des jeunes. C'est vraiment ça. On est dans une situation où il y a une partie de la population qui ne peut pas circuler parce qu'elle risque tout le temps d'être contrôlée et d'être détenue au centre de rétention administrative et puis renvoyée aux Comores. Donc en fait, le confinement avec l'impossibilité pour la France de reconduire aux Comores, c'est une forme de souffle quoi pour une partie de la population qui peut davantage circuler, en tout cas de manière un peu plus sereine. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et donc il y a eu des premiers conflits avec la police. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment être sur place pour savoir à quoi ça tient, mais je crois que mais le fait que la police ait interdit les mourengues, ça a joué beaucoup et c'était pas pensable, c'était pas tolérable. Voilà, donc il y a eu sur ce premier week-end de mai des affrontements très violents avec la police. Il y a eu aussi des blocages de route dans une autre commune, à Kahani, suite à un accident de la route. Une petite fille de 5 ans a été renversée et hospitalisée. Et donc la population a exprimé son ras-le-bol des difficultés liées à la circulation, parce que Mayotte, les routes sont toujours de bonne qualité, c'est pas des lieux toujours très sûrs. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une zone où, en fait, avant, il y avait un ralentisseur, c'est une route départementale, le département a rénové la route et a enlevé le ralentisseur. Donc, voilà, donc c'est une voie où, en plein milieu de la commune, les voitures circulent relativement vite, donc il y a eu cet accident, et la population a érigé des barrages avec de l'électroménager usagé, des branches et tout ça, la gendarmerie s'est déplacée, donc ça a été très tendu. Et du coup, la tension, elle est toujours là. On était dans une situation de crise sociale avant le confinement, qui est pas réglée, qui s'est un petit peu tassée du fait de la circulation contrainte. Donc voilà, on est dans une situation où en fait les tensions sociales, elles sont du fait de la précarité, de la violence sociale que les gens subissent. Le confinement, il décuple cette précarité, cette violence subie. Il y a eu des sortes de programmes, enfin la mise en place d'aides alimentaires qui a été assez laborieuse. Hein. Moi, j'ai eu du mal à comprendre comment elle s'était mise en place dans les communes. En fait, le 30 mars, la préfecture, elle demande au CCAS et puis à la Direction régionale de la cohésion sociale d'accentuer l'aide de droit commun. Alors moi, l'aide de droit commun, j'entends le fait que potentiellement, ça touche pas tout le monde. Mais j'ai un peu de mal à saisir ça. Et elle encourage les magasins et les particuliers à faire des dons, notamment les invendus. Elle autorise aussi les associations à organiser des actions d'aide alimentaire, même si ce n'est pas leur vocation initiale. Et elle organise aussi une réorientation des moyens liés à l'alimentation dans les établissements scolaires. Alors, c'est pas à Mayotte, on n'a pas un système de restauration dans les établissements scolaires, hein, c'est des collations. Donc, les parents d'élèves payent pour ça en début d'année. Donc là, l'idée, c'était de réorienter vers la population, en dehors de l'établissement, ces collations, et donc de les réorienter à destination des grandes poches de pauvreté qui sont identifiées par l'INSEE. Alors, dans la pratique, moi, j'ai eu du mal à voir comment ça avait été mis en place. L'État, le département et puis les communes a aussi financé une aide alimentaire sous forme de bons. Alors des bons, j'ai entendu parler de bons de 100 euros, je ne sais pas s'il y a eu des variations dans les montants. Et donc c'est les CCAS dans les communes qui devaient établir des listes et centraliser ces bons. Moi, comme je ne suis pas sur place, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans la distribution de ces bons. Même si des bons alimentaires de 100 euros par famille, c'est extrêmement faible. Hein. On a beaucoup de familles de plus de 6 personnes à Mayotte. À qui elles ont été destinées ces aides alimentaires, est-ce que, enfin, si les CCAS partent de leur liste, j'imagine qu'il y a une partie de la population qui est peut-être pas comptabilisée. Si c'est des personnes domiciliées dans la commune, tout le monde n'a pas une adresse, une boîte postale. Hein, les personnes qui sont dans du logement informel n'ont pas ça. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça a pu être, comment ça a été administré. En tout cas, il y a eu des problèmes dans la distribution, des distributions extrêmement tardives, vraiment. Hein. Il y a dans la commune de Tsingoni, début mai, les bons n'étaient toujours pas distribués. Alors il y a un collectif par voie de presse qui accuse certains élus de détournement, mais sans qu'on puisse vraiment le vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que début mai, ça faisait déjà longtemps, ça faisait un mois et demi de confinement, les bons n'étaient toujours pas distribués. Voilà, donc c'est assez compliqué. Moi, ce que je regardais là pendant le confinement pour avoir une idée un peu, une idée de sur place, qui pouvait bénéficier, quelles étaient les conditions de vie, notamment des plus précaires, c'est vrai que je me référais pas mal aux chroniques sociales qui sont réalisées par Daniel Gros sur le blog de Mediapart, où lui, il est quand même assez proche des populations les plus précaires, des Comoriens, des étrangers, mais pas uniquement, et il disait qu'il y avait vraiment des quartiers où, en fait, cette aide alimentaire n'arrivait pas. C'est pareil, il y a eu des problèmes d'eau, donc l'ARS devait mettre en place des rampes à eau. Parce qu'on a, à Mayotte, en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante dans la maison, il y a des bornes d'eau qui sont mises en place dans les communes, dans les quartiers. Il y en a un certain nombre qui sont défectueuses. Donc là, le problème se posait de se rendre compte que, en fait, l'accès à l'eau, il est très difficile, même à partir des bornes d'eau publiques. Donc il y avait des rampes d'eau qui devaient être... Alors c'était très... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à voir comment c'était déployé sur le territoire. Est-ce qu'effectivement, tout le monde avait accès à l'eau? C'est assez compliqué. Alors, a priori, ça a été possible dans certains quartiers. Daniel Gros, son travail de chronique sociale, il est vraiment intéressant parce qu'on a très très peu d'écho de la manière dont les personnes les plus précaires vivent. Quand c'est mentionné, c'est à titre illustratif. Voilà. À Mayotte, la précarité, donc on fait une photo de bidonville souvent, et puis en fait, on ne saisit pas la réalité depuis leur situation, leur condition de vie vraiment, ce que ça veut dire d'être enfermé à la maison quand on est une maman seule, qu'on n'a pas de ressources, qu'on ne peut pas se déplacer pour aller, parce qu'il y a énormément d'entraide familiale et puis amicale aussi à Mayotte. S'il n'y avait pas ça, les gens ne pourraient pas vivre. C'est la sécurité, c'est la famille à Mayotte, pour une grande partie de la population, celle qui n'a pas accès à une sécurité de droit. La famille, les enfants sont des ressources. Moi, j'avais remarqué aussi que les transferts d'argent type Monogram, RIA, en fait, étaient suspendus à Mayotte dès le début du confinement. À Mayotte, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire et donc ils passent par ces systèmes parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un titre de séjour ou quoi que ce soit pour pouvoir transférer de l'argent, en recevoir ou en envoyer. Tout l'argent qui vient de Métropole, de La Réunion, parce qu'il y a énormément de soutien de la famille qui envoie, quand on n'a pas accès à ça, c'est très compliqué. C'est une partie des ressources aussi qui sont plus accessibles.
On se refait une petite pause musicale avec toujours M. Toro Chamou et son titre M. Gaudreau Rebelle.
Tout le mal, Naula we maore, pare tende. Naula we maore, pare tende. Kwaher usonga wa Babylon. Kwaher. Kwaheri ushonga wa Babylon. Weye kweli ulawe pare ringate pia si sawa. Ulawe pare ringate pia si sawa. Sanjabanu Siri Songei, Misozi Remengwei. Tenaz Javanu Hao Jabari, Taurla Habari, Hatuleo. Waza Javanu Siri Songei, Misozi Remengwei. Beki la Shonga Wasika, Mekar Somli Sharti a Shonga. Tulumau, 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 tulumau. Naulawe maore, bare tende. Naulawe maore, bare tende. Wahe. Kwaheri ushonga wa Babylon. Kwaheri. Kwaheri ushonga wa Babylon. Oye kweli ulawe pare ingate pia si sawa. Ulawe pare ingate pia si sawa. Javanu Siri Songe, Misozi Remengwe. Yeah. Bewa uwe mkolo wa Swatoro. Hey.
Alors justement, donc là tu as évoqué le confinement très difficile à organiser et à supporter. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du déconfinement ?
Alors, le déconfinement, il n'y a pas eu de... Enfin, j'ai revérifié aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de déconfinement déclaré à Mayotte. La préfecture ne parle pas de déconfinement. Elle parle d'un desserrement des contraintes à partir de lundi dernier. Ce qui s'est passé le 11 mai, c'est qu'il y a eu une réouverture partielle de certains commerces, les commerces alimentaires. Donc pas de déconfinement, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement l'ensemble, parce qu'à Mayotte, en fait, il y a des moyennes surfaces, des grandes surfaces, et puis une bonne partie de la population, notamment quand on ne peut pas sortir du quartier, on va dans les petites boutiques informelles, mais pas uniquement, il y a des tout petites boutiques dans tous les quartiers, pour accéder à l'alimentation. Donc là, l'ensemble de ces petites boutiques ont pu rouvrir, toutes celles qui proposaient de l'alimentaire. Et les 18 mai, c'est la réouverture de l'ensemble des commerces, en gardant à l'esprit qu'il faut respecter les mesures de sécurité. Alors le conseil scientifique avait signalé à l'ARS et à la préfecture que étant donné que le pic de l'épidémie n'était pas passé, il était déconseillé de faire un déconfinement, de laisser circuler la population. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc aujourd'hui c'est l'Aïd et que enfin la préfecture savait très bien qu'elle ne pourrait pas faire respecter un confinement strict, parce que l'Aïd c'est une des fêtes les plus importantes, et pour l'Aïd on achète des cadeaux, on achète à manger, c'est une fête importante, on est dehors, c'est une fête qui se célèbre collectivement. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 18 mai, les commerces ont réouvert, et puis toujours pas d'annonce de déconfinement, alors que pourtant ça y ressemble sérieusement vu les situations. Il y a des embouteillages, il faudrait avoir une attestation, mais la plupart des gens n'en ont pas, donc on ne voit pas très bien en quoi c'est pas un déconfinement. Et puis, du coup, il y a la mise en place aussi de distribution de masques et de gel à la population, parce que les gens ne peuvent pas, pour une partie de la population, c'est pas possible d'acheter. Est-ce qu'il y en aura assez, c'est compliqué. Et un autre élément aussi dans la sortie du confinement strict, c'est la réouverture à partir d'aujourd'hui de plusieurs écoles primaires. Alors, c'est censé se faire de manière progressive. Donc, aujourd'hui, ce serait 15 à 20 écoles primaires. J'ai pas... J'ai pas regardé précisément ce que c'était dans 5 communes qui, c'est des communes qui annoncent pouvoir accueillir dans le respect des règles sanitaires hein, les élèves. Et donc l'objectif, ce serait progressivement, à partir de la semaine prochaine, la suivante, jusqu'au mois de mai, de réouvrir de plus en plus d'écoles. Alors moi j'ai pas trop de contacts dans les syndicats parmi les syndicalistes à Mayotte. J'ai trouvé qu'ils avaient été très très absents du débat. Ils auraient pu avoir une place. Hein. Les conditions de travail pour les personnes qui sont pas en télétravail, et à Mayotte, il y a peu de télétravail, j'imagine. Voilà, je pense que les syndicats auraient pu avoir une place. Là, c'est la seule fois où il y a vraiment un syndicat qui a annoncé, c'est le SMUIPP, hein, qui est majoritaire dans l'enseignement primaire, qui a demandé à l'ARS des garanties de respect des règles sanitaires et qui a dit qu'il pourrait encourager les enseignants à faire valoir leur droit de retrait si ces garanties n'étaient pas réunies. Donc c'est un peu étrange, quoi. C'est un déconfinement qui n'est pas annoncé, comme si la préfecture tenait à ce que ce soit pas dit, et parce qu'on est dans une situation où les cas continuent de progresser, il y a de plus en plus de cas, donc c'est un peu un espèce de retour à la normale sans le dire vraiment. Une des caractéristiques en fait des départements d'outre-mer, c'est qu'ils sont globalement marqués par des très très fortes inégalités au sein du département, et puis aussi des inégalités très fortes avec la métropole, parce que c'est pas du tout les mêmes situations, parce que c'est un traitement administratif qui est différent, et donc on a tendance à se poser la question de comment la crise aurait pu être mieux gérée. Dans le rapport que la manière dont la France administre ses départements, est-ce que c'est possible de gérer de telles crises? Et en fait, le problème n'est pas tant dans les moyens mis maintenant, ils pourront toujours en mettre, on voit bien que c'est très compliqué, et qu'il faudrait se saisir de la situation, là, de la crise sanitaire et sociale, pour repenser les modes d'administration. Moi, je me pose comme principe que je m'avance pas sur est-ce que Mayotte devrait prendre son indépendance ou pas, parce qu'en fait, c'est pas moi que ça engage. Je considère que c'est pas mon rôle de le faire, en plus. Mais manifestement, cette manière de gérer les territoires, qui est différentielle de la métropole, et comme gage, la ministre des Outre-mer, elle le dit, on a fait tout comme en métropole, bah oui, mais en fait, ça marche pas du tout. Tant qu'on fera perdurer ces inégalités, à la fois avec la métropole et puis au sein du territoire, qu'on produira des statuts différents, qui sont structurants dans la société mahoraise, hein. Enfin, vraiment, à Mayotte, c'est cette question des statuts, elle définit énormément de choses, dans la position des gens dans l'espace social. Tant qu'on ne remettra pas en question ça, qu'on n'essaiera pas de s'attaquer à cette question des très très fortes inégalités, on pourra mettre autant de moyens qu'on veut dans des situations de crise comme celle-ci. Je pense que c'est voué à l'échec et les populations les plus vulnérables seront toujours celles qui vont pâtir le plus.
Eh bien, merci Mathilde Soubry pour ton intervention, pour ton regard et ton analyse sur la situation de Mayotte, où on voit que la situation est complexe, et comme dans d'autres territoires, finalement, la crise sanitaire renvoie à une crise sociale qui renvoie à une crise de gestion, à un rapport de l'État qui est très particulier. On rappelle, et tu l'as dit tout à l'heure, les textes de Daniel Gros, donc qui tient un blog sur Mediapart, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, pour comprendre un petit peu la vie pendant le confinement sur place. Eh bien, merci Mathilde, et puis auditeurs, auditrices de Fracture, on se retrouve eh bien, la semaine prochaine.
Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre ou réécouter les anciennes émissions, c'est ou sur le site de Pulsar ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et enfin, pour nous contacter, c'est sur fracture@autistiki.com, fracture au pluriel, @autistici.org. À bientôt.